Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Ignoble, dégoûtant, épouvantable, le corps mort, la décomposition suscite le plus souvent chez celui qui la rencontre dans la vie un sursaut effaré, une répulsion immédiate. Pourtant, les poètes, les artistes, les moralistes qui se sont penchés sur ces restes décourageants ont su leur trouver parfois une beauté singulière, non pas seulement par fascination morbide, mais au fond par le spectacle édifiant pour l'esprit et pour l'œil de la métamorphose du monde. Hicham Stéphane Afessa vient d'écrire à ce sujet un livre passionnant, érudit, spectaculaire, où il conduit cet état limite de la matière entre la forme et l'informe au seuil d'une esthétique particulière, celle de la charogne. C'est son titre, Esthétique de la charogne. Il ne s'agit pas de s'ébahir du lait, mais d'accueillir l'irregardable comme une beauté nouvelle qui suppose une réorganisation de nos catégories. Il le formule mieux que moi dans un paragraphe de son introduction. Écoutons-le.
Le spectacle de la pourriture apparaît intrinsèquement répugnant. Tout ce qui grouille, fourmille, se désagrège, adhère, s'agglutine, pullule, ondoie, est voué à inspirer du dégoût. Par quelle improbable opération de transfiguration ou de sublimation, pareil spectacle pourrait-il présenter le moindre attrait esthétique? Oserait-on parler d'une esthétique de la pourriture? Voire d'une esthétique de la charogne, en se référant non pas à telle ou telle représentation stylisée qu'un artiste pourrait en donner, mais à la réalité des processus naturels de décomposition dans ce qu'ils ont de plus cru et d'insoutenable à la vue comme à l'odorat. Hicham Stéphane Afessa.
Hicham Stéphane Afessa, merci d'être avec nous, bonjour.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie de votre invitation.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Oui, très bien. Alors vous êtes agrégé, docteur en philosophie et docteur en géosciences et environnement. Et tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un lien entre l'idée d'environnement et l'idée de charogne.
Ah ben oui, parce que ce qui m'intéresse dans la charogne, c'est sa décomposition, donc la façon dont la matière organique est recyclée dans le cadre d'un écosystème. Donc oui, c'est bien en tant que philosophe de l'environnement que je me tourne vers cet objet.
C'est intéressant parce que vous auriez pu le faire en tant qu'historien d'art, en tant qu'historien de la philosophie ou de la littérature, parce que toutes ces catégories ont observé ce corps ignoble dont vous nous parlez avec intérêt et avec... en y trouvant une beauté, et cette beauté, je dois dire que je la rejoins, je la trouve également. Et dans le livre, tout commence avec une rodbox. Qu'est-ce que c'est une rodbox ?
Alors la rodbox, c'est le nom qu'on donnait à une boîte du pourrissement, c'est la traduction littérale, des scientifiques anglo-saxons qui ont mené une expérience assez fascinante dans les années 2000, qui a consisté à faire entrer dans une boîte en verre des victuailles pour environ 4 personnes et à laisser pourrir. Alors il y avait de tout, il y a de la viande, il y a des légumes, etc. En introduisant tous les éléments, les agents de la décomposition, et puis ils ont filmé ça pendant 3 semaines, 4 semaines, pratiquement plusieurs mois, en observant donc les étapes progressives. Et ça a donné lieu à un documentaire qui s'appelle Strange Science of Decay, qui a été diffusé sur la BBC. Et on en a une adaptation en français, mais sous un autre titre, que je trouve que le changement de titre est intéressant, c'est L'art de la décomposition.
Alors l'art de la décomposition, c'est très étrange parce que il faut, pour le considérer, s'opposer à quelque chose qui est immédiat chez l'homme, qui est la répulsion. Et au fond, comment surmonte-t-on la répulsion devant la décomposition ? Et d'où vient-elle d'ailleurs cette répulsion ?
Alors, je crois qu'il y a, plusieurs justifications. Là, c'est une grosse question que vous posez. Du coup, ça va donner.
C'est quasiment tout le livre. Donc, on va le séquencer.
Je crois qu'il y a deux motifs principaux, deux motifs majeurs qui peuvent expliquer cette répulsion. Il y a un motif qui est d'ordre anthropologique. S'il y a une constante qui a été maintes fois relevée en anthropologie, c'est l'attitude que nous avons qui nous pousse à nous détourner du spectacle de la décomposition, parce que le corps en état de putréfaction est considéré comme étant impur. C'est la souillure par excellence, souillure qui souille le cadavre et qui souille par contagion les proches. Voilà, si le corps mort horrifie, je crois que c'est au nom de cette idée de contamination. De là, sans doute, tous les rites de purification, tous les rites de suppression, de dissimulation de la putréfaction. Alors, je crois que c'est le motif majeur. Alors, maintenant, on pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles on éprouve une répugnance, même une horreur viscérale devant ce genre de spectacle. Mais il y a une autre raison peut-être qui explique que ce spectacle n'ait donné lieu à aucune représentation ou presque. Enfin, il faudrait qu'on s'explique là-dessus en art.
On va en parler, oui, parce que c'est pas vrai.
Il y en a beaucoup. Bah, la preuve, beaucoup. 650 pages sur le sujet, c'est donc que j'ai quand même trouvé. Disons qu'il y a une résistance, oui, à ce type de représentation. Ce sont des raisons esthétiques, mais là, je vais pas développer parce que c'est...
Alors peut-être je vous propose qu'on parle. Écoutons ce que dit Lacan sur la question. Écoutons-le. C'est dans le moi, dans la théorie de Freud.
Une liquéfaction dégoûtante. Une chose qui n'a de nom dans aucune langue. L'apparition nue, pure, simple, brutale, de cette figure impossible à regarder en face, qui est en arrière-plan de toutes les imaginations de la destinée humaine, qui est au-delà de toute qualification, et pour laquelle le mot de charogne est tout à fait insuffisant. La retombée totale de cette espèce de boursouflure qu'est la vie. La bulle s'effondre et se dissout dans le liquide purulent inanimé. Jacques Lacan, 1978.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous sommes en train de commenter un livre extraordinaire, inhabituel, sur un sujet tout aussi inhabituel qui s'appelle Esthétique de la charogne de Hicham Stéphane Affessa. Et ce livre est paru, Hicham, aux quelles éditions ?
Aux éditions Dehors.
Bravo pour la maquette d'ailleurs qui est absolument sensationnelle.
Oui, je suis content que vous le disiez. L'éditeur s'appelle Eli Conks, qui a fait un travail formidable et vraiment je lui suis infiniment reconnaissant. C'est la première fois que je vois tout ce qu'un éditeur peut apporter à un livre.
Alors je voyais la couverture qui est légèrement comme ça annelée si je puis dire et on a l'impression de voir le corps d'une mouche qui se poserait sur un cadavre. C'est un petit peu ce vert luisant comme ça qu'on a dans ces boursouflures dont parle Lacan.
Et regardez la tranche, elle est légèrement irisée, puisque à l'intérieur, il y a un cahier central qui a été imprimé sur un autre papier, un papier d'une autre couleur, qui est de couleur crème, avec une encre de couleur bleue. Donc vraiment, il a fait un objet de toute beauté.
Alors, quand Lacan dit que l'inquiétude que l'on a à regarder ce corps en décomposition, c'est le spectacle de notre propre mort, c'est une inquiétude du destin.
Je suis pas sûr de bien comprendre votre question.
Est-ce que la répulsion devant la mort ou le spectacle de la mort est une répulsion devant notre devenir?
Ah oui, d'accord, notre propre destin, d'accord. Ah oui, absolument. Il est certain que c'est ça. Je crois que la raison pour laquelle on a cherché, comme je le disais, à dissimuler, à supprimer toutes les traces de la putréfaction, c'est pas pour le mort lui-même. Hein, c'est bien pour nous. Hein, on essaye de chasser de notre représentation les horreurs de la décomposition, de ne pas penser à celle qui nous guette, mais aussi à celles qui labourent le corps de ceux qu'on a aimés et qui ont disparu.
Et pourtant, du 16e, particulièrement 16e, 17e siècle, cette représentation de la mort est incroyablement fréquente. On la voit dans les tombeaux, dans certains ivoires, sur des tableaux. Ce sont pas seulement des memento mori, c'est quoi? C'est pas seulement pour se souvenir qu'on va mourir, ou bien c'est seulement cela?
Alors, on peut élargir le spectre, en fait. Ça va. Quand je me suis mis à la recherche, donc, de textes, de représentations du corps en décomposition, on peut élargir vraiment du 12e siècle, pratiquement, jusqu'au 21e siècle. C'est-à-dire qu'on peut couvrir pratiquement un millénaire où on en trouvera ce type de représentation. La fonction de ce type de représentation, évidemment, elle a changé au fil du temps, au cours de la première période où on trouve, je crois, énormément de représentations de ce genre, c'est-à-dire à partir de l'art macabre médiéval, la fonction du memento mori est effectivement primordiale. Mais même ce memento mori doit être interprété. Il ne s'agit pas simplement de nous rappeler à notre propre vulnérabilité, à notre finitude. Il s'agit aussi peut-être de nous présenter la vie comme étant une chose dont on doit absolument profiter. Et aussi encore, alors il y a plein de choses, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. On peut nous présenter la décrépitude. Il y a certaines images des danses macabres qu'il présente. La décrépitude et la mort comme étant une continuation de la vie. Alors, les fonctions sont multiples, en tout cas à cette époque-là, et au fil des siècles ultérieurs, ça ne cesse de changer. Ce qui m'a intéressé, moi, dans cette représentation de la décomposition, c'est, comme je l'explique, c'est l'oblitération progressive, et je trouve que c'est vraiment le fil conducteur de cette longue histoire, ce que j'appelais l'oblitération de la mort humide, c'est-à-dire la mort qui déborde de Sani, est de plus en plus exclue du champ de la représentation au profit de la mort sèche, c'est-à-dire sous la forme d'un cadavre desséché, d'un squelette décharné ou encore d'un corps
imputrescible. Là où vous avez raison, c'est que on a l'impression que il y a une certaine beauté qui réapparaît dans la structure sèche de l'homme.
Oui.
Et alors qu'il y a une répugnance dans ces écoulements horribles, et pourtant cette répugnance est aussi pleine d'enseignements philosophiques.
Ah oui, oui.
Je pense par exemple au sermon sur la mort de Bossuet. On l'écoutera tout à l'heure, mais on voit qu'il y a un moment qui peut-être a un caractère théologique et non pas seulement philosophique.
Oui, la théologie est, pour l'époque médiévale, ça n'étonnera personne, est d'une importance cruciale. C'est d'un point de vue théologique que la décrépitude, la mort, la putréfaction va être utilisée. Alors, dans la perspective théologique, évidemment, pour dissuader les hommes de consacrer leur vie à la vie terrestre, à l'existence terrestre, pour leur montrer que tout cela est frivole, que tous ces plaisirs-là sont futiles.
Mais vous disiez le contraire aussi, c'est-à-dire que les deux contraires cohabitent comme toujours, hein, donc il y a une ambivalence.
Je crois, c'est ce que j'essaie d'expliquer, que les théologiens ont mis en circulation un thème, celui que je viens d'expliquer, la décrépitude pour détourner les hommes de l'existence terrestre. Et ils ont mis en circulation ce thème qui charrie des images qui sont tellement puissantes qu'ils ont obtenu l'effet inverse de celui qu'ils voulaient.
Oui, c'est ça.
Il y a eu un retournement de situation. Les hommes, loin d'entendre dans ce discours-là la nécessité d'abandonner les plaisirs terrestres, ont compris exactement le contraire.
Puisque les poètes, hein, Ronsard et ça.
Voilà.
Mais au lieu de dire repentez-vous, vous allez mourir, c'est jouissons vite pendant que l'on peut encore avant de mourir.
Voilà, c'est plus un memento mori, c'est memento vivere.
Voilà, souviens-toi qu'il faut vivre. Oui. Alors, écoutons cette petite séquence spectaculaire et tragique. On est au milieu du 17e siècle. Évidemment, c'est le sermon sur la mort de Bossuet, on ne pouvait pas ne pas l'écouter.
Me sera-t-il permis aujourd'hui d'ouvrir un tombeau devant la cour? Et des yeux si délicats ne seront-ils point offensés par un objet si funèbre? Je ne pense pas, messieurs, que des chrétiens doivent refuser d'assister à ce spectacle avec Jésus-Christ. C'est à lui que l'on dit dans notre évangile « Seigneur, venez et voyez où l'on a déposé le corps du Lazare. » C'est lui qui ordonne qu'on lève la pierre et qui semble nous dire à son tour « Venez et voyez vous-même. » Jésus ne refuse pas de voir ce corps mort comme un objet de pitié et un sujet de miracle. Mais c'est nous, mortels misérables, qui refusons de voir ce triste spectacle comme la conviction de nos erreurs.
«
Jacques Bénigne Bossuet, 1662.
Jean-Stéphane Fessa, nous sommes là pour parler de cette esthétique de la Charogne, ce livre, mais nous venons d'entendre Bossuet qui évidemment va développer son propos en essayant de faire un écart entre ce qui est l'homme et ce qui est l'âme à partir de ce texte. Et est-ce que finalement dans l'épouvante que crée la Charogne, il n'y a pas celle d'un monde sans Dieu? On a l'impression que le monde de l'informe, qui ressemble au cadavre, si je puis dire, au cadavre en décomposition, s'oppose au monde de la forme, qui est le monde divin. Dieu forme le monde et la mort l'informe d'une certaine façon.
Mais c'est un thème qui est très ambigu, que celui de la putréfaction et du pourrissement. On peut l'interpréter comme vous venez de le faire. Par exemple, c'est ce que fait Zumbo. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui était un artiste de la sériculture, du modelage de la cire colorée. Et je crois que c'est dans cette perspective-là qu'il a représenté. Alors, pour moi, il est un des plus grands artistes de l'esthétique de la Charogne de tous les temps. Il a représenté les corps en décomposition dans la perspective que vous venez de dire, pour montrer ce qu'est la nature lorsque Dieu l'abandonne. Voilà jusqu'où peut aller la putréfaction. Dieu étant au contraire le principe qui insuffle la vie. Mais, et c'est ça la bizarrerie du thème, on peut dire exactement le contraire aussi, en présentant l'extraordinaire force de la nature qui est capable de recycler les nutriments, la matière organique, et qui fait à partir de la mort de la vie. Et donc ici, Deus sive natura, comme dirait l'autre, c'est la puissance de Dieu aussi bien qui réussit ce miracle avec des éléments et des déchets de corps, pour le miracle de refaire une vie.
Alors Zumbo, c'est extraordinaire, donc c'est des petits studiolos, des petits cabinets comme ça qui se trouvent dans le Palazzo Pitti, au musée de la Specola à Florence, et qui décrivent les différents états de décomposition pendant la peste, en fait. Et on voit un personnage rentrer, alors c'est grand, ça doit faire 1m50, même pas, 1m20 peut-être, et d'ailleurs c'est très bien décrit par un auteur que vous citez, qui est Yves Le Fur, l'excellent directeur des collections du musée du Quai Branly, qui a fait une thèse sur ces questions remarquables, et une exposition d'ailleurs, La mort n'en saura rien, qui était une des plus belles expositions qu'on puisse faire. Mais il décrit cela, et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a une ambiguïté entre la jouissance de ce spectacle, parce que c'est une œuvre d'art, et l'horreur de ce spectacle, parce que c'est la mort. Et au fond, votre lecteur est aussi tiraillé entre ces deux aspects en permanence.
Ah bon ? Du coup, je serais un peu ennuyé parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que le lecteur soit pas horrifié par ce livre-là.
Déjà, il n'est pas horrifiant, mais il est fascinant à cause de ça, parce qu'il y a une attraction-répulsion permanente.
Oui, j'ai choisi minutieusement les images justement les moins abominables pour ne pas choquer. j'ai essayé de soigner le style autant que possible pour faire passer la pilule, mais il reste que c'est intrinsèquement répugnant. C'est insurmontable. L'art, on essaiera d'en reparler, l'art ne peut pas transformer ce type de spectacle. Le pouvoir de transfiguration est mis en échec.
Mais c'est drôle, moi je suis pas d'accord avec vous. Ah. Mais, enfin, je me permets dans notre conversation, mais c'est parce que l'art n'a fait que représenter des horreurs, des martyrs, des viscères dégueulasses enroulés sur des rouleaux, des personnages écorchés vifs, enfin des corps crucifiés. Le spectacle de l'art est le spectacle permanent de l'horreur, et oui, pourtant et nous en jouissons. Oui, et donc c'est sur ce paradoxe que je veux vous interroger.
Mais l'horreur, c'est pas l'immonde. C'est ça qui est très différent. L'art peut transfigurer des choses atroces parce que d'une certaine manière, l'attention va être détournée des choses atroces elles-mêmes vers la technique de représentation qui a été mise en œuvre pour les représenter. Mais ça fonctionne pas, cette logique-là, avec l'immonde. Parce que lorsqu'on est face à l'immonde, c'est comme si nous étions face à un fragment du réel. J'essaie d'expliquer à un moment dans le livre que le concept d'immonde est très proche de celui de l'obscène. Le propre de l'obscène, c'est qu'il n'y a pas de médiation symbolique, il n'y a pas de médiation qui permettrait de métaphoriser, de modifier le niveau de réalité de ce qu'on est en train d'observer. On est face directement à la réalité. lorsque nous éprouvons une réaction de dégoût face à l'immonde, on ne peut pas mettre à distance sa propre réaction. Descartes disait qu'on doit toujours apprendre à voir représenter ses propres passions comme en un théâtre. Alors c'est peut-être possible de le faire pour la peur, c'est peut-être possible de le faire pour l'horreur, ça marche pas pour l'immonde. On ne joue pas, voyez, à être écœuré comme on joue à se faire peur.
Mais
on l'est pour de vrai.
La médiation de l'art éloigne l'immonde, parce que
je crois qu'elle n'y arrive pas justement face à l'immonde. C'est une thèse philosophique qui a été défendue par notamment Kant, mais il y a toute une tradition sur le sujet. Face à l'immonde, l'art rencontre quelque chose comme un point de butée, une limite. Et au fond, il en va de deux choses l'une. Soit l'affect que nous éprouvons est bel et bien de l'ordre du dégoût, c'est la réaction que suscite le spectacle de l'immonde, et dans ce cas-là, il ne peut pas s'agir d'une expérience esthétique. Soit on a bien à faire une expérience esthétique, mais l'affect qui lui correspond n'est pas de l'ordre de l'immonde. Il y a quelque chose de disjonctif entre les deux.
Alors, on va écouter, puisque vous parliez de Zumbo, quand même, ce texte fameux de Sade. Alors, il y a deux versions de ce texte. Là, je pense qu'on écoute la version de Justine, mais il y a aussi une lettre qui est encore plus précise sur le plaisir qu'il y prend. Écoutons-le.
Dans cette salle, on a donné corps à une idée bizarre. On peut y voir un sépulcre rempli de cadavres à divers stades de la putréfaction, de l'instant de la mort jusqu'à la destruction totale de l'individu. Cette œuvre sombre a été exécutée en cire colorée, imitant si bien le naturel que la nature ne saurait être plus expressive ni plus vraie. L'impression est si forte face à ce chef-d'œuvre que les sens semblent se donner l'alarme l'un l'autre. Sans le vouloir, on porte la main à son nez. Mon imagination cruelle s'est délectée de ce spectacle. À combien d'êtres ma méchanceté a-t-elle fait éprouver ces degrés épouvantables ? Non loin de là, se trouve un autre sépulcre de pestiférés où l'on observe les mêmes degrés de putréfaction. On y voit surtout un malheureux entièrement nu qui porte un cadavre pour le jeter avec les autres et qui lui-même, suffoqué par la puanteur, tombe à la renverse et meurt. Ce groupe est d'une vérité effrayante.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Nous sommes en train de parler d'un livre d'Hicham Stéphane Afeissa qui vient de sortir et qui s'appelle Esthétique de la Charogne. Un livre passionnant et j'ai la chance d'être avec son auteur. On écoutait donc le Marquis de Sade parler de sa relation et on voyait que ses sens participaient donc à la scène qu'il regardait. Il allait jusqu'à se boucher le nez en solidarité avec le personnage qui porte un cadavre et qui se bouche le nez lui-même.
Oui.
Ça vous paraît plausible ?
J'aime beaucoup ce passage-là.
Ou c'est romanesque ?
Il dit les sens s'alertent les uns les autres, je crois, c'est ça sa formule.
Oui, c'est exactement ça.
Et je trouve que c'est tout à fait exact. Je crois que c'est ça l'expérience de l'immonde. Lorsqu'on est face à un spectacle immonde qui inspire du dégoût, on a beau se dire et se répéter que ce n'est qu'une image fictive, rien n'y fait. On réagit comme si nous étions face à la chose elle-même. Le fait qu'il porte son nez porte la main à son nez indique bien, vous voyez, l'impossibilité qu'il est, dans laquelle il est, de mettre à distance le spectacle. Donc là, je trouve que c'est une très bonne description.
Parlons quand même du plaisir de l'immonde, parce que vous avez l'air de ne pas y souscrire. Vous pensez qu'il n'y en a pas, que on est forcément c'est forcément répugnant. Mais on collectionnait l'immonde. On installait dans le cabinet de curiosité de quoi découvrir le monde, ces curiosités étranges qui parfois étaient médicales. S'il y avait des départements de tératologie, il y avait des têtes d'enfants, des fœtus, il y avait le spectacle de la mort et partout dans un cabinet de curiosité. Et c'était des lieux de pensée, mais aussi de délectation, d'une certaine façon.
Ah oui, absolument. Mais moi, l'immonde qui m'intéresse, si j'ose dire, c'est l'immonde d'un corps en décomposition. Parce que là, ce dont vous parlez, les morts, les corps plongés dans du formol, des choses comme ça, je ne suis pas certain que ça provoque une réaction qui serait celle du dégoût. On peut être horrifié par ce genre de vision, mais ce n'est pas l'immonde qui m'intéresse. La réaction face à un corps en décomposition, je crois, ne ne peut être que celle de l'immonde. Et qu'il y ait un intérêt épistémologique, scientifique, à observer ces choses-là, alors, cette fois-ci, je veux dire, un corps en décomposition, ça, c'est absolument certain. Et il faudra qu'on y revienne. C'est une des thèses centrales que je défends.
Je parce que dans le début de votre livre, lorsqu'on part de cette boîte où on voit se succéder les parasites qui viennent avec une organisation militaire quasiment se succéder dans la dévoration et céder d'une façon jusqu'à ce que le corps soit embaumé d'une sorte de linceul de bave et de mucus, eh bien, on ne peut pas ne pas penser qu'il y a une beauté dans ce grouillement, qu'il y a des couleurs qui apparaissent, qu'il y a un spectacle, au fond, que vous réclamez dans la fin de votre texte, en disant, mais ce spectacle est extraordinaire parce que c'est le spectacle de la vie en train de se transformer et de s'enrichir, et on peut le voir, on peut se décadrer, comme le dit votre préfacier.
Oui, absolument. Mais c'est beau tout en restant immonde. Et c'est ça la bizarrerie sur laquelle je réfléchis. Le fait que nous puissions trouver beau ce spectacle à la lumière de la science, lorsque la nature a été rendue intelligible et qu'on comprend enfin les processus de décomposition et le prodige de la nature, le miracle de la nature dans son œuvre de mort, une fois qu'on comprend tout ça et qu'on le trouve beau, ça demeure néanmoins immonde. C'est ça que j'essaye de montrer. L'immonde n'est jamais surmonté. C'est la réaction que nous éprouvons face à ce type de spectacle n'est jamais surmontée, même lorsqu'on le trouve beau.
Étonnez-moi sur le spectacle de la mort tel qu'on le voyait dans les cabinets forains, au fond, de Spitzner, par exemple, qui circulait dans toute la France pour montrer des cadavres, des cadavres parfois, en céroplastie, recouverts de cire, ou ça. Ça a eu un succès populaire gigantesque. On voyait cela. Mais comme aujourd'hui, j'aime aller au musée de Maison Alfort, voir les extraordinaires écorchés de Fragonard, un des plus beau musée du monde. J'espère que les auditeurs iront au musée vétérinaire de Maison Alfort voir ces chefs-d'œuvre absolus de l'histoire de l'anatomie qui sont d'une beauté baroque stupéfiante.
Mais je vous envie, il faudrait que j'y aille depuis le temps que je vous le dis. Pour vous parler du musée Spitzner, je ne peux y penser qu'avec beaucoup de tristesse, parce que quand on voit ce qu'étaient les cires anatomiques à l'époque d'un Susini, à l'époque de Zumbo, et lorsque on voit ce que c'est devenu entre les mains de Spitzner et d'autres, hein, il était loin d'être le seul.
Ça va encore, non? Il y en a des.
C'est une longue décadence, je trouve. Et puis, ce qui est très agaçant dans le musée Spitzner, c'est le discours qui accompagne tout ça. C'est un discours qui hygiéniste. Vous voyez, c'était vraiment exaspérant. C'était quand même ça la motivation fondamentale.
Parce qu'il y avait les maladies, les syphilis, etc. Voilà. Une partie de ce musée Spitzner est maintenant à la faculté de médecine de Montpellier.
Ils ont vendu la collection.
Oui, et donc c'est là qu'on peut en voir des fragments. Comme on peut voir des très très beaux exemples, je crois, au musée à Paris, musée Saint-Louis, sur la maladie de Pau.
D'accord. Mais puis les réalisations aussi sont loin de valoir celles de l'époque de Susini. La Vénus de Susini est une merveille. Et quand on voit l'équivalent dans le musée Spitzner, il n'en reste plus grand-chose.
Ce qui est fascinant dans la Vénus de Susini, par exemple, donc c'est une Vénus étendue, elle est entourée de draps blancs, elle a la tête penchée sur le côté, elle a un léger sourire, les lèvres humides, elle est d'une sensualité folle.
Exactement.
Et elle a son abdomen entièrement ouvert.
Elle est intégralement démontable.
Et
fœtus inclus.
Extraordinaire. Et elle est désirable.
Ah oui.
C'est très étrange. Et là, on est vraiment dans la beauté du spectacle de l'épouvante.
Je ne trouve pas ça épouvantable, justement.
Ben non, ça ne l'est pas. C'est une fleur.
Alors, quand on regarde, je cite tous les témoignages, ça m'a frappé quand j'ai travaillé sur ce livre-là. Il y a énormément de témoignages des contemporains, lorsque toutes ces cires anatomiques ont commencé à fleurir un peu partout. Ils sont allés voir par curiosité ce que c'était. Et j'ai fait attention au vocabulaire qui est utilisé. Ils sont horrifiés par ce qu'ils découvrent, mais ils ne disent pas que c'est immonde et jamais le terme de dégoût n'est utilisé. Ils disent ces images sont extrêmement frappantes, on dirait aujourd'hui un peu traumatisantes, et l'expression revient très souvent, ça poursuit l'imagination. Donc ils ne disent pas que ça rentre dans la catégorie du monde, et je crois que ça n'en relève pas du tout. C'est horrifiant si on veut, et ensuite je me suis demandé, j'ai consacré tout un chapitre à ça, en me demandant, mais quel est le sentiment, dans quelle catégorie esthétique on pourrait faire rentrer leur réaction? Et c'est ce que j'essaye de montrer. Je pense que la catégorie peut-être la plus fine qui peut coller à leur réaction, c'est peut-être celle de l'obscène. Et je crois qu'ils trouvent ça obscène, et non pas immonde.
Et pourquoi est-ce que vous le ferez pas, puisqu'on catégorise, ce qui forcément est faux, mais c'est aussi le sublime, cette vision qui peut être spectaculaire ou épouvantable, nous met au seuil d'un précipice en nous-mêmes. On est, cette fois-ci, le précipice n'est pas la mer profonde, mais ni les Alpes épouvantables par leur puissance géologique, telle qu'on les ressentait au XVIIIe siècle. Mais c'est nous-mêmes, c'est la faille que nous avons en nous, non?
Oui, pour moi, ça peut rentrer dans la catégorie du sublime, tout ce dont on est en train de parler, mais pas l'immonde. Parce que je crois que c'est une des idées que j'essaye d'expliquer. Il faut bien une sublimation pour réussir à trouver un intérêt à la vision d'un corps en décomposition. Mais cette sublimation, elle n'est pas effectuée par un artiste, parce que cet objet ne s'y prête pas. La réaction que nous éprouvons dégoût n'est pas susceptible de conversion esthétique. La sublimation, elle est pourtant bien nécessaire, mais comme j'essaie d'expliquer, elle est effectuée par la nature elle-même. C'est la nature elle-même qui nous apparaît sublime dans le travail qu'elle effectue, pour peu qu'on comprenne ce qu'elle est en train de faire. Encore une fois, c'est à la lumière de la science. On ne peut trouver un intérêt esthétique, un attrait esthétique à ce type de spectacle que si on arrive à subsumer les phénomènes naturels sous les catégories que nous fournissent les sciences naturelles. C'est par ce biais, alors là, si je fais de la philosophie, que mon livre se rattache à un courant d'esthétique contemporain, de philosophie d'esthétique qui s'appelle l'esthétique environnementale.
Alors, est-ce que vous aviez un prédécesseur célèbre qui s'appelait Baudelaire? Parce que quand il fait une charogne, il apporte un sens de lecture de l'immonde. Et là, il s'agit bien de l'immonde. Mais en l'accompagnant, il en décrit la beauté fabuleuse. On va en écouter un extrait.
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Charles Baudelaire, 1857.
Vous êtes sur France Culture, vous venez d'écouter ce texte sur la charogne, une charogne de Baudelaire évidemment, et vous disiez, Hicham, pendant que nous l'écoutions, quel texte? Pourquoi? Quel texte?
Déjà, il faut rappeler que le texte a probablement été écrit par un jeune homme de 23 ans. C'est quand même incroyable, à 23 ans, produire quelque chose pareil. Le texte est fabuleux, alors on pourra en parler pendant des heures, il y a énormément de choses qui ont été écrites sur lui. Ce que je trouve vraiment assez extraordinaire, c'est que ce texte se nourrit, c'est ce que ma conviction, il se nourrit de tout un discours physiologique qui l'a rendu possible. La question que je me suis posée quand je me suis tourné vers la littérature du 19e siècle, c'est que, comme on le sait, la littérature du 19e siècle, c'est vraiment le siècle de la charogne. C'est ce que disait d'ailleurs Théophile Gautier, le siècle était à la charogne. Et je me suis demandé comment se fait-il qu'au 19e siècle, on ait vu fleurir une littérature cadavéreuse et sépulcrale. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tout le monde à peu près, de Théophile Gautier à Baudelaire, en passant par Flaubert, et je pourrais citer à peu près tout le monde, pourquoi tout le monde s'est-il mis à faire comme ça des vers sur les cadavres et à spéculer, à perdre de vue sur l'anéantissement dans le tombeau? Alors, ma question n'est pas neuve, il y a eu plusieurs historiens de la littérature qui sont penchés là-dessus, mais il y a une hypothèse qui n'a pas été avancée, en tout cas je l'ai pas trouvée, qui me semble pourtant peut-être l'une des plus intéressantes, c'est l'hypothèse selon laquelle toute cette littérature s'est inspirée d'une rupture qui s'est produite en physiologie, dans les sciences de la nature et du vivant, à savoir cette nouvelle conception de la mort qui a conçu la mort non plus comme étant l'opposé de la vie, mais comme étant quelque chose qui qui se produit dans le vivant et qui se prolonge au-delà de la mort. L'idée de mort partielle, qui est celle de Buffon, qui est aussi celle de Xavier Bichat, c'est-à-dire l'idée qu'on meurt petit à petit, qu'on meurt à petit feu, que les systèmes organiques s'éteignent les uns après les autres, et que dès lors qu'on comprend qu'il y a une sorte de perméabilité de la mort et de la vie, et que la mort, au fond, ne fait jamais que être largement préparée par toutes sortes de morts partielles, on peut comprendre que la réciproque est vraie.
Ce que vous appelez les morts partielles, il y a une description, je crois que c'est Buffon, mais je ne suis pas sûr, dans votre livre,
oui,
où on sur le vieillissement.
Le vieillissement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le vieillissement cellulaire, et on pourrait rajouter aujourd'hui aussi la mort cellulaire, qu'évidemment, il n'a pas connue. Et donc, si on comprend qu'il y a une sorte de perméabilité comme ça de la vie dans la mort, on peut aussi s'imaginer qu'il y a un peu de vie qui se prolonge encore dans la mort. Et je crois que tout le 19e siècle, la littérature est née de cette fascination-là, l'idée qu'il y a des morts partielles qui ouvrent un domaine de description complètement inédit, la putréfaction. Et c'est pour ça qu'ils vont tout chercher à démontrer, donc Théophile Gautier, Flaubert, etc., à démontrer de quelle manière...
Et
Victor Hugo, dans une page extraordinaire, oui, de L'homme qui rit, oui, une page absolument fabuleuse. Et je crois que c'est ça qu'il essaye de faire, Baudelaire, pour revenir à son texte. Il essaye de montrer de quelle manière la vie naît de la mort, dans une sorte de cercle ou de cycle qui rend l'opposition entre la vie et la mort complètement caduque au sujet de la matière. Et il va même plus loin, et c'est ça qui fait que ça, c'est vraiment prodigieux ce texte-là. Il essaye de montrer que le travail de décomposition qu'effectuent les agents décomposeurs, les agents recycleurs, est identique au travail de création de l'artiste. Parce que lui aussi, comme le dit Baudelaire dans un passage célèbre, lui aussi il fait la même chose, il essaye de faire à partir de la boue, il essaye de faire de l'or. Et donc le travail de putréfaction devient le modèle même de la sublimation artistique.
Ça, je trouve ça absolument magnifique comme allusion. Cette fraternité entre l'art et l'anatomie, la mort, l'exploration des limites de la perception et du corps, vous disiez dès le 12e, 13e siècle, on le voit, etc. Mais au fond, particulièrement à la Renaissance, non ? Quand il y a ce développement de la science anatomique par les artistes.
Alors, c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé écrire parce que ce sont des choses magnifiques. Le travail, par exemple, de Vézal, les écorchés de Vézal, on ne se lasse pas d'observer ces belles œuvres.
Alors, on les voit en gravure,
oui,
mais ce sont des écorchés ou des squelettes, d'ailleurs.
Qui prennent d'étranges positions. Oui. On a l'impression
des positions de lassitude face à la vie.
Oui, on en voit un, par exemple, que j'aime beaucoup. Là, c'est un squelette qui réfléchit visiblement sur la mort et qui fait rouler négligemment un crâne entre ses doigts, comme si de la mort il n'avait rien d'autre à faire, puisque visiblement il est très mort, c'est un squelette, il n'avait rien d'autre à faire qu'à réfléchir sur la mort. J'aime beaucoup cette représentation.
Il y a celui aussi du squelette fossoyeur qui s'appuie sur une pelle.
Que Baudelaire a mis en texte. Il y a un très beau poème de Baudelaire où il parle de cela. Mais en même temps, c'est pour ça que je suis un peu partagé avec cette séquence-là de l'histoire de l'art, je trouve qu'il y a une radicalisation qui commence vraiment à bien se faire sentir à cette époque-là, de la mort, ce que j'appelle la mort sèche. C'est-à-dire qu'on évacue de plus en plus la mort humide, la mort, comme je le disais, qui déborde de sa nid, et je trouve qu'il y a une perte de ce point de vue-là. L'esthétique de la charogne essaye de montrer que la charogne est un objet esthétique quand même extrêmement précieux. Et j'ai le sentiment que là, il commence à de plus en plus être évacué.
Alors, la mort humide continuera d'intéresser les artistes encore aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent en ce moment sur ces questions de putréfaction, de modification des choses. Mais est-ce que vous pensez que dans la curiosité qu'on a à l'égard de ces spectacles, à un moment donné, je crois que dans un texte en prose, Baudelaire parle de l'attirance pour des spectacles qui sont parfois des condamnations, des mises à mort, des différentes choses, et qui faisaient que toute la population s'y précipitait. Et il disait, celui qui ne comprendrait pas, il lui manquerait une corde grave.
Ouais, c'est un texte magnifique. Ouais. Hein? Alors, ça porte un nom en philosophie, on appelait ça le paradoxe des émotions négatives. Alors, il porte plein de noms aussi, le paradoxe de la tragédie, le paradoxe du cœur, voilà, j'aime bien cette dernière appellation. Le paradoxe des émotions négatives, il est simple à comprendre. Ça consiste à dire, premièrement, que les émotions négatives telles que, c'est ce que Spinoza appelait les passions tristes d'ailleurs, la peur, la tristesse, sont des émotions qui sont psychologiquement désagréables, que personne n'a envie de vivre. L'art, deuxièmement, est capable de produire ce genre d'émotion, et là, c'est là le paradoxe, en art, exactement ces émotions-là, eh bien, on aime en faire l'expérience.
L'art, c'est peut-être simplement ça, aller à faire l'expérience de situations ou de spectacles qui sont à la limite de notre capacité de conscience, non ? C'est pour élargir notre champ de conscience, peut-être.
À condition qu'on puisse, encore une fois, les mettre à distance. Et je crois que dans ces conditions-là, on peut encore trouver une forme de plaisir. C'est la vieille théorie de la catharsis, dont aujourd'hui on discute de savoir si elle doit être attribuée ou non à Aristote. Mais je crois que cette idée est très importante. Ces émotions, on peut leur trouver une forme de délectation à les éprouver qu'à la condition qu'on puisse, encore une fois, les maîtriser, les faire jouer, les mettre en scène. Mais si on est débordé par ce genre d'émotions, comme c'est le cas justement du dégoût, alors cette fois-ci, il y a un problème esthétique. Il faut que, si l'émotion ne peut pas être convertie à des fins esthétiques, je pense pas qu'on puisse éprouver une quelconque satisfaction à l'éprouver.
Ce qui est frappant dans la lecture que chacun peut faire de romans policiers dans lesquels il y a des descriptions épouvantables d'assassinats les pires possibles, on est mis avec plaisir dans le spectacle de l'infâme, de l'immonde.
Oui.
Et on le supporte et on le recherche même presque.
Oui, parce que je crois qu'on arrive à faire une dissociation entre le contenu même de la représentation avec laquelle on est conduit à sympathiser, et puis la façon dont tout cela est décrit. C'est-à-dire qu'on n'oublie jamais quand même que nous sommes en train de lire de la littérature dans le cadre d'un polar, que nous sommes en train de regarder un tableau, que nous sommes en train de regarder un film, etc. Il y a toujours cette possibilité de surcodage.
Vous voulez dire que c'est la fiction qui nous protège.
Oui. Voilà.
Alors, je me souviens dans votre livre, il y a un personnage que j'aime énormément, dont j'ai vu beaucoup d'œuvres aussi à Amsterdam, dans des expositions sur les cabinets de curiosité, qui s'appelle Friedrich Ruysch.
Oui.
Et donc là, c'est des constructions le plus souvent, donc on connaît pour la plupart sauf une, je crois, par la gravure. Et ces constructions, là, il n'y a rien de faux, puisque on voit des petits squelettes qui donnent l'impression d'être quasiment des jouets, si je puis dire, posés sur des rochers, et rien de tout ça n'est faux. Ces rochers ne sont pas des rochers, ces jouets ne sont pas des jouets.
Oui, ce sont des fœtus, oui. Ce sont des préparations naturelles. C'est comme ça qu'il travaillait Ruysch. Non pas les préparations artificielles dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la cire modelée, mais là, des préparations naturelles, c'est-à-dire qu'on a affaire à de véritables corps. Et il a trouvé une technique, d'ailleurs qu'on appelait l'art de Ruysch, il a trouvé une technique particulière pour réussir à les conserver et à stopper la dégradation et la corruption de ce genre d'objets. Alors, c'est vrai qu'on sait bien que c'est du réel, mais regardez l'art avec lequel tout ça est mis en scène. C'est quand même considérable. Il y a tout un travail qui exaspérait les contemporains, parce que Ruysch avait la prétention d'être ce qu'il était, d'ailleurs, un anatomiste premier plan, un médecin important. Et tout le monde disait, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette mise en scène ? Et je crois que retirer cette mise en scène, et cette fois-ci, ça devient beaucoup plus difficile de regarder avec un quelconque plaisir esthétique ce genre de représentation.
Cela dit, donc, ça ressemble à un diorama. C'est un petit socle en bois autour duquel il y a deux petits squelettes. L'un est en train de pleurer, l'autre regarde une branche. Et il y a des rochers. Et sur de ces rochers partent ce qui pourrait ressembler à des coraux ou à une forêt, mais qui sont probablement des éléments anatomiques.
Ce sont des calculs rénaux.
Et des calculs rénaux. Oui. Et des calculs rénaux sur lesquels sont posés ces trois squelettes. C'est que de la souffrance.
Voilà.
En fait, c'est trois hommes posés sur la souffrance.
Oui, c'est une interprétation que je trouve assez convaincante aussi. Je crois que c'est l'une des choses qu'il a voulu dire. Alors, il y a une autre interprétation que j'ai trouvée très forte aussi quand j'ai travaillé sur le sujet. Et on fait remarquer que souvent, ces personnages tiennent des morceaux de dentelle. J'y avais prêté aucune attention. Des mouchoirs en dentelle, etc. Et ce qu'il essaye de montrer, c'est que l'artifice humain qui réalise des dentelles, et à l'époque, c'était très difficile de réaliser ce genre de choses, est tout à fait comparable à ce que fait Dieu avec le corps humain, où là on retrouve aussi cette même construction réticulaire, mais Dieu le fait infiniment mieux que nous. Donc en fait, il y a tout un discours théologique sous-jacent. Alors j'avoue que j'y avais pas pensé avant de voir des interprètes développer cette idée-là.
C'est ce qui célèbre la minutie attentive de Dieu.
Au fond, c'est une sorte d'argument de l'existence de Dieu. Ça relève de ce qu'on appelle la théologie naturelle. Regardez ce que nous faisons avec des tissus, et Dieu fait exactement la même chose, mais en tellement mieux.
Alors, un des plus beaux exemples dans l'art français de représentation anatomique, probablement, c'est Gautier d'Agoty, qui est cet extraordinaire fabricant d'estampes médicales colorées, magnifiquement colorées. Et vous précisez que parfois, ils rajoutent cette couleur pour le plaisir, quitte à s'éloigner de la science.
Ah oui, oui. Là, on est vraiment à un moment de basculement. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on exige encore quand même de la part des artistes que ce qu'ils livrent ait un intérêt scientifique, que, comment dire, il y a un fond documentaire qui puisse rendre ces images utilisables. Et avec Gautier Descotis, on est en train de basculer, on fait de l'art pour de l'art. Même si, sur le plan scientifique, c'est loin d'être médiocre ce qu'il fait.
Un des plus célèbres, c'est l'ange anatomique. Oui. Vous pouvez nous le décrire?
Alors, c'est une femme vue de dos, dont l'épiderme a été retiré, et de sorte qu'on voit très distinctement les côtes. Et ces côtes sont présentées de telle sorte qu'on a le sentiment, en fait, que ce ne sont pas des côtes, mais plutôt un ange. C'est comme si c'était des ailes d'un ange. Alors, c'est tout en rouge, et si ma mémoire est bonne, il y a toutes sortes de couleurs. On a le sentiment que c'est un ange, alors que pourtant, c'est juste
un écorché. Il y a une annotation, parce qu'effectivement, cette peau se déploie comme des ailes. Mais il y a une annotation qui est amusante, qu'on voit dans le titre de la planche, dans lequel il précise qu'il a rajouté la tête pour agrément.
Ah.
Et donc, c'est quelque chose que l'on voit, par exemple, chez Pinson, ce fameux anatomiste français, céroplasticien français, non?
La femme à la larme,
c'est oui, ça? Oui, c'est un des plus célèbres, oui, il est magnifique.
Très, très beau, celui-là, c'est assez bouleversant. C'est une femme qu'on nous présente de face, de profil, pardon, et de profil, on voit un visage avec donc c'est en cire, si encore.
Oui, c'est en cire, oui.
Et on voit une larme qui coule sur sa joue, on se demande un peu pourquoi, et lorsqu'on regarde l'autre profil, là, on comprend pourquoi elle pleure, tout simplement parce qu'il ne reste plus rien. On voit son crâne complètement dénudé, tout a été retiré. Il y a une face qui est impeccable avec l'épiderme et de l'autre côté, il ne reste plus rien. Donc c'est vraiment, c'est très beau, quoi. On voit dans quelles conditions ce genre de science a réussi à se réaliser, dans la souffrance. Et on retrouve ce genre d'images très souvent dans cette époque-là dans l'anatomie artistique.
Vous dites dans la souffrance, mais aussi avec une curieuse ambiguïté de plaisir, parce que une fois de plus, cette femme est d'abord une femme romantique l'artiste a joué avec la situation.
Gérard de Lérès, c'est l'image que je trouve également dans le livre, a présenté une femme écorchée, vive. Je crois qu'il y a encore une corde qui pend autour de son cou. Et on voit aussi, c'est le détail qui est intéressant, on voit les deux mains qui sont dans le dos sont elles-mêmes ligotées. Donc on a le sentiment qu'elle a été torturée. Et que c'est dans ces conditions-là qu'on a obtenu la possibilité de l'écorcher vive comme ça.
Alors, je voudrais qu'on écoute un texte de Jean-Paul Sartre. C'est tiré de L'idiot de la famille. C'est sur cette fascination pour la matière puante dont nous parlions tout à l'heure.
Fasciné par cette matière puante faite à sa ressemblance, il découvre en elle un moindre être qui a ce double caractère contradictoire d'être la dérision de la beauté, de la jeunesse, de la dignité humaine et tout en même temps d'en produire la vérité. Le cadavre lui fait horreur quand il grouille de vie posthume, c'est-à-dire quand la décomposition se manifeste en celui-ci comme puissance intérieure de se décomposer. Il assimile cette fièvre qui ensorcelle la matière en cet instant à l'activité autre qui, dès la mise en bière, s'acharne sur les vivants. Par les ignobles chimies de ses digestions, par la puanteur de ses excréments, par la fétidité de son haleine, de ses transpirations, par les résinées qui tournent sous sa peau, par ses sucs, par le pus qui, sans raison apparente, s'amasse en gonfles rougeâtres et pointes, jaunes abcès, furoncles, phlegmons, pour gicler enfin liquéfaction de sa chair. N'est-il pas de son vivant la charogne qu'il sera post-mortem? Jean-Paul Sartre, 1971.
Sur France Culture et vous écoutez L'art est la matière et nous parlons d'un livre formidable qui s'appelle Esthétique de la charogne. Je suis avec son auteur, Hicham Stéphane Afessa. On écoutait ce texte épouvantable et je voulais vous entendre parler aussi d'un phénomène, je dirais c'est un phénomène de foire, un petit peu comme on a eu à l'époque de Spisner des phénomènes de foire avec ses spectacles anatomiques, si je puis dire, qui est ce personnage moderne qui a fait qui a invité des personnes à se livrer post-mortem à son scalpel. Il s'appelle Gunther von Hagens et ça a été un succès mondial. Des millions de visiteurs sont allés voir ces corps morts qui, dans la forme, étaient très souvent des pastiches de Fragonard.
Oui, alors c'est un personnage fascinant que ce monsieur-là, qui vit toujours. L'exposition s'appelle Body Words, et d'ailleurs, pour les auditeurs qui seraient curieux, ils peuvent aller la voir. Il y a une exposition permanente maintenant de ça, de ces modèles, de ce qu'il appelle des plastinas à Amsterdam. C'est assez extraordinaire quand même. Il a trouvé une technique pour les conserver, qu'il a breveté d'ailleurs, qui est la sienne, une technique de plastination. Alors c'est vrai, ce sera peut-être un peu long d'expliquer de quoi il s'agit, mais il s'agit de faire rentrer, si vous voulez, du plastique dans le corps humain. Et à terme, ces corps dont on a retiré l'épiderme, donc si vous voulez, ce sont des écorchés, sont composés de 70% de plastique, mais ça se voit pas vraiment. On a l'impression que ce sont des êtres humains en chair et en os, si j'ose dire, et de fait, ce sont vraiment des êtres humains. C'est pas...
Qui se sont livrés oui. par testament, donc à son talent, que moi je n'aime pas du tout parce que je trouve qu'il est très kitsch, mais j'ai peut-être tort.
Ben, je ne suis pas fan non plus, je partage vos réserves. Je trouve que c'est du très très bel ouvrage ce qu'il fait, c'est tout à fait impressionnant. Techniquement, c'est extraordinaire. Sa contribution à l'anatomie didactique ne fait aucun doute, mais ce qui me gêne dans ce qu'il fait, c'est le discours qui l'accompagne. Body Words était sous-titré, et il est toujours exposition de corps authentiques. C'est ça qui me gêne, parce que, comme je viens de le dire, ils sont composés en vérité de 70% de matière plastique.
Oui, puis il y a un sensationnalisme sur
le spectacle. Ça, c'est exaspérant. L'élément de cirque chez cet individu-là, non, ça, c'est insupportable.
Alors, vous détestez... Walking Dead, alors que je m'attendais à ce que vous disiez, mais c'est l'accomplissement de mon esthétique du morbide.
La série Walking Dead, oui, c'est ça. Ben non, parce que je trouve que, c'est ce que j'essaie d'expliquer à la fin de ma préface, je trouve que ce n'est vraiment qu'une reprise de choses extrêmement connues. Lorsque on parcourt, comme je l'ai fait patiemment, toute l'histoire de l'anatomie artistique, lorsqu'on remonte même depuis l'art macabre médiéval jusqu'à l'époque contemporaine, le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le plan strictement esthétique, et je ne me place pas sur un autre terrain, ils ont rien inventé. On connaît déjà tout ça, c'est du vu et revu. En revanche, je ne dis pas que ce plan philosophique, anthropologique, etc., ça puisse présenter un réel intérêt. Mais sur le plan esthétique, non, là vraiment, c'est de la ressucée. On connaît déjà tout ça.
Vous êtes... Vous avez dû travailler 20 ans sur un livre pareil, non?
Alors, il y a deux livres en un, c'est la bizarrerie du livre. Il y a un chapitre très long de 200 pages sur Aristote qui est inséré au beau milieu du livre et qui apparaît sous la forme d'un chapitre qui n'est pas numéroté.
Et vous avez été fasciné par la mimésis.
Alors, Aristote m'a coûté énormément d'efforts. Lui, 20 ans, c'est peut-être un peu exagéré, mais entre 10 et 15 ans, ça, oui, les années, ils sont largement... Oui, j'étais fasciné
par... Mais pour moi, c'est pas évident, la relation mimésis et anatomie.
Ma thèse, un peu audacieuse, consiste à dire que Aristote est le tout premier théoricien et au fond peut-être le seul de l'esthétique de la charogne. On trouve chez lui une esthétique de la charogne qui est parfaitement développée et qui constitue une composante réelle de sa réflexion sur l'art.
Il n'y a pas des philosophes grecs qui ont dit que cela on n'en avait rien à dire.
Probablement, je vois pas qui vous fait allusion, mais très probablement, puisque encore une fois, pour les raisons que je disais tout à l'heure, si on a bel et bien affaire à un spectacle immonde qui produit une réaction de dégoût, alors ça échappe complètement à toute réflexion sur l'esthétique. Encore une fois, c'est le point de butée ou d'effondrement de toute esthétique. Et ce qui est assez étonnant dans le texte d'Aristote, en tout cas c'est ce qui m'a laissé bouche bée quand je suis tombé dessus, c'est que il présente un exemple, c'est dans le chapitre 4 de la poétique, il prend l'exemple de formes d'animaux parfaitement ignobles ou de cadavres, et c'est l'exemple d'une représentation artistique. Il dit, imaginez un tableau qui représenterait des formes d'animaux parfaitement ignobles ou de cadavres, et il dit, ben, on trouverait un plaisir esthétique à regarder une chose pareille. Et je me suis dit, c'est quoi après tout ces formes d'animaux parfaitement ignobles ou de cadavres? Alors la démonstration serait peut-être un peu longue à faire, mais je suis convaincu que ce n'est rien d'autre qu'une charogne, un corps en décomposition. Donc, il mais prend l'exemple d'un objet immonde, d'une représentation immonde, pour dire, bah, il y a un plaisir esthétique à regarder à ça.
Est-ce que c'est pas ça, la définition de la sublimation? Prendre le très bas pour le mettre très haut?
Alors, il y a une sublimation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, il y a sublimation, mais elle n'est pas effectuée par l'artiste. Et justement, le texte est passionnant, je l'ai commenté. Alors, mes pauvres élèves ont subi ce texte-là pendant une quinzaine d'années. Tous les ans, je leur redonnais ce texte d'Aristote à expliquer parce que je n'avais pas fait le tour. Ce que Aristote dit très clairement dans ce texte-là, c'est que la représentation de cadavres, des formes parfaitement ignobles, etc., n'est pas enjolivée par l'artiste. Il dit même exactement le contraire. Il dit que, d'une certaine manière, le cadavre peint est pire que le cadavre dans la nature, mais simplement, lorsqu'il est peint, on apprend quelque chose que le cadavre, tel qu'on pourrait le trouver dans la nature, ne nous apprendrait pas du tout.
Alors, vous spécialisez sur les sujets réjouissants, parce que je crois que votre prochain livre, c'est La fin du monde et de l'humanité.
Ah, c'est mon précédent, celui-ci.
Ah, c'est votre précédent.
C'est le précédent.
C'était une prédiction
ou... Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire de pire après avoir réfléchi sur la fin du monde et l'humanité? Je me bats la charogne.
Bon, ça se termine bien, ce livre précédent, justement, que je n'ai pas lu.
Oui, ça se termine bien, ça va. Ça se termine sur une note optimiste, un peu hypocrite, mais...
Dites-moi, quel enseignement peut-on tirer d'un point de vue écologique sur cette question de la charogne, puisque, après tout, c'est votre enseignement?
Oui, alors, j'essaye de... Là, ce sont les implications métaphysiques, un petit peu, de ce livre-là, qui ne sont pas explicitées. J'essaye de montrer qu'il y a, dans cette puissance de régénération de la vie à partir de matières mortes, il y a... quelque chose qui doit nous inciter à penser autrement le corps, l'individualité, la vie, de sorte que notre attention serait détournée d'une certaine manière de l'être humain que nous sommes et de ce que sont également les animaux, vers des agents minuscules qui sont des agents de décomposition, des agents de recyclage, ce que Bruno Latour appelle les actants. Et j'essaye au fond de dissoudre l'individualité et de m'arracher à ce plan individuel pour attirer l'attention sur ces agents minuscules. Alors, ils ne sont pas forcément minuscules, hein, puisque les charognards font aussi partie de ces agents recycleurs, pour montrer que c'est peut-être à cette échelle-là, donc écosystémique, qu'il faut réussir à appréhender le phénomène du vivant.
Et pour vous, l'ignoble et la vraie charogne de l'humanité, c'est plutôt tout ce qui est incorruptible, que l'homme laisse, tous ces...
C'est une très belle idée qui est avancée par mon préfacier, Luis Marquez. Effectivement, il a raison, il a bien deviné mes intentions. C'est une des choses que je voulais dire. Au fond, la pire des barbaries, la pire des horreurs, peut-être l'immonde au-dessus de tout immonde, c'est ce que l'humanité est capable de produire et qui, elle, n'est pas susceptible d'être recyclée.
Merci infiniment Hicham Stéphane Afeissa pour ce livre « Esthétique de la charogne » publié aux éditions Dehors.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était « L'art et la matière » par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu, évidemment, pour l'esthétique de la charogne, Hicham Stéphane Afeissa. C'est aux éditions du Dehors. Vous retrouvez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. C'était une émission faite en collaboration avec Seam Boutata, recherche et choix des textes Héloïse Alluin, lecture des textes Hélène Losseur, prise de son Claire Levasseur, réalisation Franck Lilin. Merci Franck. Et la semaine prochaine, ça va être passionnant, nous parlerons de Franz Marc, sa grande exposition au Musée d'Orsay. Et à 15h30, vous retrouverez, chers auditeurs, Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.